Bienvenue, vous êtes à l'écoute de Radio Duo sur le 89.5 ou alors c'est que vous êtes sur le streaming du www.radioduo.org. Midi, tout pile, en ce jeudi 9 avril. C'est l'heure de l'info sur les antennes de Duo et le jeudi, vous le savez, c'est toujours une journée particulière avec des émissions en alternance. On peut citer par exemple le premier jeudi du mois avec une carte blanche offerte à des artistes. Le troisième jeudi du mois, c'est le moment de la philosophie avec l'association Aussitôt Dit. Et le deuxième jeudi du mois, comme aujourd'hui, c'est le Grémos qui investit le studio. Le Grémos, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Et aujourd'hui, c'est Jean-Michel Stenner qui est là pour représenter l'association. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, retour sur une journée d'études qui a eu lieu le 28 novembre 2014.
Oui, tout à fait. Donc, nous avons un peu bouleversé notre programme prévu au départ parce qu'il nous semble important de ne pas trop attendre pour revenir sur les différentes interventions de cette journée du 28 novembre 2014. Donc, les deuxièmes rencontres d'histoire ouvrière. C'est un rendez-vous que le Grémos a initié depuis 2013 et qu'il souhaite pérenniser. Progressivement, d'ailleurs, il aimerait l'élargir au-delà des limites du bassin stéphanois. Cette journée, donc, elle était pour nous l'occasion, sur le thème association et mémoire ouvrière dans le bassin stéphanois, de faire se rencontrer d'un côté les services d'archives publiques, archives départementales de la Loire, archives municipales de Saint-Étienne. De l'autre côté, les très nombreuses associations qui travaillent sur le patrimoine de notre région. Beaucoup de celles-ci s'intéressent aux aspects techniques de l'histoire industrielle. Nous cherchons pour notre part, en tant que groupe de recherche et d'études sur les mémoires ouvrières, à les sensibiliser aux aspects humains. En effet, il nous semble que derrière les machines et entre les murs des usines, il y avait aussi des ouvriers et qu'il est important de ne pas les oublier. Alors cette journée, donc, elle a été pour nous l'occasion de faire en sorte que les associations, toutes ensemble, puissent réfléchir à cette question de la mémoire ouvrière et à ce qu'elles réfléchissent aussi aux sources, aux ressources dont elles disposent. Alors les associations invitées sont nombreuses, nous avons rencontré plus de 20 associations et une quinzaine se sont fait représenter ce jour-là. Ça a été pour nous l'occasion donc d'abord de faire cette rencontre, de faire connaissance avec les associations, de constater les problèmes de chacune et puis de réfléchir à des objectifs communs. Avec cette idée en filigrane que la mémoire ouvrière, l'identité ouvrière peut être un vecteur de fédération entre ces associations. Alors aujourd'hui, nous allons écouter deux interventions. Il y a eu une dizaine d'interventions, donc deux interventions. D'abord celle de Maurice Bedouin qui présente toute les résultats de l'enquête que nous avons conduite et puis ensuite celle de Morane Chabanon qui fait la comparaison entre le cas de Villeurbanne et le cas de Saint-Étienne. On va donc dans un premier temps faire une petite première pause musicale très courte avec une chanson de Filler italien.
Commençons par revenir sur ces enquêtes que nous avons conduites auprès des associations, des structures, des musées qui ont la préoccupation de s'intéresser au patrimoine, à la sauvegarde de la mémoire, à la fois la mémoire du monde du travail et du monde ouvrier. Le premier constat, c'est l'existence d'un maillage très serré en Loire-Sud, d'un tissu de ces ensembles que je viens de nommer. Et dresser la liste, dresser l'inventaire de ces structures n'est pas chose aisée. Alors nous pouvons distinguer, vous le voyez ici, des structures qui assurent la conservation des archives publiques, archives départementales de la Loire et services d'archives municipaux, une structure labellisée ministère de la Culture Saint-Étienne, ville d'art et d'histoire, qui a été reconnue, Saint-Étienne a été reconnue en raison de son patrimoine 19e, 20e siècle, surtout industriel. L'existence de musées de type associatif, au minimum 15, il y en a sans doute plus. Et puis un très grand nombre de maisons de quartier amicales laïques, au minimum 24, dont je sais bien l'objectif est de créer du lien social, mais le lien social passe souvent par des ateliers d'écriture, des ateliers mémoire, des études de paysage. Et puis enfin, des organisations syndicales détentrices d'archives au nombre de 6. Alors, vous ne manquerez pas de me dire les oublis que vous aurez pointés dans ces cartes, mais on ne doit pas être très loin d'un inventaire assez complet. Et superposer ces calques, superposer ces calques, si je l'avais fait, arriverait à dessiner un espace géographique que vous attendez parfaitement, c'est le bassin industriel stéphanois. Mais il reste du blanc. Il reste du blanc, par exemple, du côté des monts du Lyonnais, du côté de la plaine du Forêt, du côté de la retombée de la Haute-Loire, du Pilat. Et c'est tout l'intérêt du travail d'inventaire qui a été réalisé par Adeline Chiles, qu'elle est en train de continuer actuellement pour le parc régional du Pilat, l'inventaire des espaces industriels, en quelque sorte, entre Saint-Julien-Molay-Molette et le Dorlet. Et si cet inventaire était conduit sur les autres périphéries, on s'apercevrait à ce moment-là que c'est un vaste système spatial qui dépasse de beaucoup le territoire du bassin industriel tel qu'on l'entend habituellement. Alors le Grémaud s'est donc demandé, Jean-Michel nous le disait tout à l'heure, s'il ne serait pas fructueux de provoquer une rencontre de ces différents acteurs, des acteurs qui se réclament des mêmes objectifs, des acteurs qui n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer, de se connaître et de se reconnaître dans leur spécificité. J'insiste sur ce point-là. Et bien, c'est l'intention que nous avons dans cette journée et dans cette rencontre, dans cette invitation. Oui, mais voilà, recevoir des invités implique qu'on les connaisse pour établir les présentations et permettre ensuite le dialogue et permettre de se parler. Alors voilà pourquoi notre petite équipe du Grémos a envoyé 23 questionnaires et rencontré 9 associations, autant d'associations, autant de lieux différents, autant de personnes passionnées. Donc c'est aujourd'hui une joie de vous voir dans la salle pour beaucoup, parce que ça a été pour nous l'occasion de rencontrer des équipes très soudées, qui s'étaient formées elles-mêmes, avec de la créativité, de l'ambition. Et ça, ce sont des rencontres qui comptent. Alors, quels sont les points forts sur lesquels je voudrais insister à l'issue de cette enquête ? Premier point fort, alors celui-ci, il est évident, c'est que c'est à propos des contenus présentés, c'est que la spécialisation, l'omnipotence des présentations touche les productions industrielles et les techniques. Alors, toutes les spécialités industrielles de la région, sans exclusive, font l'objet, dans un lieu ou dans un autre, d'une présentation. On en reparlera tout à l'heure. Et je dirais que pour quiconque est un esprit curieux, quiconque acceptent de se déplacer, eh bien, nous avons la possibilité de retrouver un panorama quasi encyclopédique de ce que fut sur ces productions de la région céphanoise. Et je crois que c'est sans équivalent dans les autres régions françaises. Dans cet ensemble, la mine est surreprésentée. C'est un méta-objet, cette mine, qui est présente aujourd'hui encore dans l'ensemble du bassin, dans les paysages, et considérée comme la mère de toutes les activités. Alors, on pourrait imaginer que le site Couriot, qui a été aménagé comme un haut lieu patrimonial, qui est le seul monument historique classé de l'ère industrielle, qui est labellisé Musée de France, aurait pu suffire à lui seul à signifier la mine. Ce n'est pas vrai du tout. On a de multiples espaces qui ont fleuri avec la préoccupation de décliner localement les références à la mine. Alors, de trois façons. La première façon, en aménageant des galeries souterraines, c'est le cas au château des Bruneaux, au musée syndical de la Ricamarie, au château de Roche-la-Molière, sans oublier la mine de Bissieux, mais la mine de Bissieux n'est pas une mine de charbon, mais une mine d'or et d'antimoine. Deuxième moyen, la reconstitution d'un logement de mineurs. C'est le cas à la maison du patrimoine à la Talaudière et au château de Roche-la-Molière. Troisième moyen, la présentation dans les collections d'outils, de structures, de gros matériels, de plans d'exploitation, de photos diverses, etc. Autrement dit, j'ai comme l'impression que intégrer la mine dans ces structures-là, c'est quasiment un préalable identitaire, indispensable pour rentrer dans la compréhension du lieu. Alors, bien évidemment, cela ne dispense pas d'avoir des entrées spécifiques à chaque lieu. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas vous citer toutes les variétés de spécialités qui sont présentées, de la forge, le gros outillage, jusqu'à la petite mécanique, jusqu'au textile. Et là aussi, le textile, il faut le décliner depuis la passementerie jusqu'à la teinturerie, jusqu'au chapeau. Il faut parler de la verrerie, des briqueteries. Voilà. Tout cela nous montre que le développement de l'industrie locale s'est réalisé en grappe autour des moyens de transport avec une population fortement développée. Autre caractéristique des contenus, c'est que les entreprises locales sont souvent étudiées comme sujet d'étude parce que le lieu d'implantation du musée s'y prête, parce que les sources d'informations d'études sont facilement mobilisables. Et en définitive, ces associations, ces petits musées sont devenus les références incontournables pour étudier ces entreprises. Là non plus, je ne vais pas les étudier, mais quand on est à Saint-Étienne, eh bien, on sait qu'on va pouvoir parler de toutes les grandes maisons du textile, de toutes les grandes maisons de l'armurerie. Quand on va à Chazelles-sur-Lyon, eh bien, c'est la maison, la chapellerie Fléchet et les autres chapelleries. Quand on va à la terrasse sur Dolet, c'est l'usine Camus, mais au-delà, toutes les usines des tresses et lacets du Dorlet de la région de Saint-Chamond. Quand on va à la teinturerie Gillet, c'est la trentaine au-delà de teintureries autour de Saint-Chamond. Et puis, c'est les forges et aciéries de la marine, les forges et aciéries de l'or. Enfin, on n'en finit plus, hein, jusqu'à l'acierie Jackson, jusqu'à l'usine d'Orient à Pont-Salomon, etc. Voilà. Au niveau des contenus. Deuxième élément qui me semble important à propos de ces contenus, c'est que les sociabilités ne sont jamais absentes. Les musées connaissent le caractère ardu d'une approche techniciste du monde du travail. Et ils ne manquent donc jamais l'occasion d'apporter une large place au mode de travail, au mode de vie, aux perceptions des hiérarchies, aux conflits. Et cela dans les expositions permanentes. Et souvent, les expositions temporaires permettent de rajouter un autre aperçu qui est peut-être plus grand public sur d'autres thématiques. Alors actuellement, nous avons les tresseurs, nous avons cœur d'ouvrier, nous avons poèmes et chansons de la mine, nous avons tissage autour du globe, etc. C'est une très grande richesse. Alors évidemment, pour certaines associations, l'aspect social est quasi exclusif. Ce sont celles qui sont spécialisées dans la conservation d'archives syndicales, tant dans le cadre des unions syndicales locales que départementales. Et d'autres, comme le CEDMO, se situent davantage sur le terrain politique. Voilà.
Premier retour, premier extrait de cette journée d'études du 18 novembre 1914, pas du tout, 2014
oui,
quand même,
oui.
On va pas aller jusque-là, qui avait pour thème associations et mémoires ouvrières dans le bassin stéphanois. Et c'est Jean-Michel Stenner du Grémos qui nous décrypte ça aujourd'hui.
Oui, je confirme, c'était bien 2014, même si on était mobilisés comme en 1914.
C'est pour ça.
Et donc, avant de. Donc, une première pause dans cet exposé qu'a fait Maurice Benoît, qui rappelle donc nous avons dépouillé 23 questionnaires et que nous avons rencontré plus de 9 associations. Il dit un passage dans son exposé, il parle de notre petite équipe. Donc, je rappelle que le Grémo, c'est une équipe de chercheurs, elle n'a pas la vocation de créer un musée, de conserver des collections. Par contre, la plupart des associations que nous avons rencontrées ont une équipe de conservation et conservent des documents de tout type, de très variés. Donc l'objectif, c'était de les faire réfléchir sur en quelle mesure leur collection pouvait fournir des informations qui permettaient de construire un peu l'histoire ouvrière du bassin. Alors dans cette pause, avant de passer à la deuxième partie, nous allons faire une petite traversée de l'Atlantique pour écouter une chanson de Woody Guthrie qui résonnera aux oreilles des Stéphanois, même si elle est en anglais, puisqu'elle s'intitule Waiting at the Gate, qui évoque les familles qui viennent attendre à la porte d'un puits de mine à l'occasion d'un coup de grisou pour avoir des informations sur sur les blessés et les morts éventuels.
Tell the miners, kids and wives, there's a blast in the number 5, and the families I see standing at the gate. The inspector years ago said number 5's a deadly hole, and the men most likely won't come out alive. Waiting at the gate, we are waiting at the gate. Smoking fire does boil and roll from that dark and deadly hole, while the miners, kids and wives wait at the gate. The inspector told the boss it was more than a year ago. You're risking these men's lives in number 5. That hole's full of fumes and dust, full of high explosive gas, but the boss said we'll just have to take the chance. Waiting at the gate, we are waiting at the gate. Smoke and fire does boil and roll from that dark and deadly hole, while the miners, kids and wives wait at the gate. Well, the men in the number 5 kiss their wives and kids goodbye, then they walk with their lunch kits up the hill. Everybody told the owner that this deadly day would come, but he said we had to work to pay our bills. Waiting at the gate, we are waiting at the gate. Smoke and fire does roll and boil from that dark and deadly hole, while the miners, kids and wives wait at the gate. Well, I try to get a look of a face I ought to know as the men are carried out wrapped up in sheets. I can hear the church bells ringing for the 111 dead. I can hear the families weeping in the streets. Waiting at the gate, we are waiting at the gate. Smoke and fire does roll and boil from that dark and deadly hole, while the miners, kids and wives wait at the gate. This explosion struck on Wednesday, and I stood by the gate till Saturday, till I laid my daddy out with the other men. In the pocket of his shirt I found a little note he wrote, never go down in a dangerous mine again. Waiting at the gate, we are waiting at the gate. smoking fire does roll and boil from that dark and deadly hole, while the miners, kids and wives wait at the gate.
Waiting at the gate, Woody Guthrie, qui évoque donc l'événement d'un coup de poussière dans un puits de mine américain, chose qui a été bien connue par les Stéphanois pendant toute la période de l'exploitation des mines, et qui mentionne le fait qu'un inspecteur avait dit que le danger existait, le patron a essayé de passer outre, l'explosion a eu lieu, le mineur est disant à son fils qu'il ne veut pas qu'il descende dans la mine. Enfin, c'est toutes des choses qu'on connaît, qu'on a connues à Saint-Étienne. Alors on va écouter la suite et la fin de l'intervention de Maurice Bedouin dans le cadre de cette journée du 28 novembre 2014, voilà que moi aussi je m'y mets, sur la rencontre entre les associations et la question de la mémoire ouvrière dans le bassin stéphanois.
Au niveau des contenus, premier point. Deuxième point, les options muséographiques. Je dois avouer mon embarras pour coller une étiquette sur toutes ces structures patrimoniales. Sont-elles des musées de site? Ben oui, tous ceux qui sont installés dans des ateliers, dans des usines, ils ont cette chance d'être des musées de site. Et je vous assure que pour le visiteur, ça compte. C'est ça qu'ils viennent chercher. Sont-elles des musées techniques et industriels? Plus personne n'utilise ce terme aujourd'hui. C'est un terme qui est complètement piégé, et pourtant... Les séries d'objets et d'outils que l'on peut voir au musée de la Talaudière, l'instrument de mesure, les lampes de mine à Couriau, les ébauches de faux à Pont-Salomon, les pièces forgées à la Mourine, elles valent autant pour le côté esthétique de série, c'est beau de voir ça, que par le côté ethnologique, et témoignent la fonction, l'usage, les pratiques d'une époque, d'un métier, des rapports de société, et ces séries sont fort évocatrices. Sont-elles des écomusées? Et il y a une structure qui se réclame être un écomusée, c'est le château des Bruneaux, pour qui son atelier de cloutier, sa salle de classe, son cuvage, son atelier d'ébéniste souhaitent insérer la culture ouvrière artisanale et la culture usinière dans son contexte, dans le contexte de la ville. Donc c'est complexe. En tout cas, tous ou presque tous cherchent à s'entourer de conseils d'experts, parfois des universitaires historiens géographes, parfois d'anciens professionnels, d'ingénieurs, de techniciens. Et d'ailleurs, réfléchissez, les associations des amis de musée ont souvent été fondées pour apporter leur expertise et favoriser les collectes d'archives. Si vous voulez... Un coup de zoom sur deux cas. Mais ils ne sont absolument pas limitatifs. Par chaque structure peut expliquer comment il fait appel à des conseils d'experts. Le cas de la Maison du patrimoine et de la mesure, avec son conseiller, qui est également président de la Société métrique de France. Vous ne connaissiez pas, mais ça existe. Eh bien, c'est grâce à lui que le lieu a pu grossir ses collections, notamment à partir des dons de l'administration publique. Deuxième exemple, la maison des Tresses et Lacets à la terrasse sur Dorlaix, avec trois étudiants de l'ENISE, cinquième année de génie mécanique, qui ont étudié les installations hydrauliques du site et qui ont remis un rapport dans lequel ils proposent des remises en état de ce site, des installations, et là, le dossier est sur le bureau de Saint-Étienne Métropole. Et on peut dire que toutes les structures qui sont en mesure de faire appel à des jeunes diplômés en master du patrimoine le font parce que ces jeunes sont capables d'apporter des compétences et puis un esprit de conviction qui est absolument nécessaire. Ils apportent du sang neuf. Troisième caractéristique, ces structures sont des créations récentes. Qu'on le veuille ou non, je sais bien que... Le MAI date du milieu du 19e. Je sais bien que Histoire et patrimoine date de 1930. Les autres sont pour la plupart nés dans la période de crise du bassin stéphanois et particulièrement à partir de 1973, Rappelez-vous que 1973, c'est l'année où le premier employeur dans le bassin stéphanois n'est plus l'industrie et où l'idée d'un ensemble intégré de l'industrie stéphanoise disparaît peu à peu. Et sans doute y a-t-il eu le sentiment de la nécessité de sauvegarder l'entité collective qui était en voie de disparition. Et au même moment, il y avait tout un effort des collectivités locales, de l'État, autour de la compréhension de ce que pouvait être un patrimoine, voire un patrimoine national, avec notamment l'année du patrimoine en 1980. D'où l'apparition du projet Couriot et du musée de la Ricamarie en 1980, du musée du Chapeau en 1983, de la Société d'histoire du Chambon en 1986, du Serpi en 1987. Avouez qu'on en a un très beau tir groupé. Quatrième élément, nous avons un intérêt populaire pour ces structures qui ne se dément pas. Cela se vérifie au niveau des adhésions. Il me reste 5 minutes. Ah, c'est abominable. Alors, oui, au niveau des adhésions, on peut dire que les Stéphanois ont peut-être un esprit individualiste, mais cela ne se dément pas. Et nous avons des adhésions qui ont parfois 400 personnes. Hein, Couriot, les amis de Couriot, c'est 400 personnes. Parfois 100, 120. C'est tout à fait admirable. Très bons résultats au niveau des fréquentations. Alors, la gratuité du premier dimanche de chaque mois dans les musées publics de Saint-Étienne a permis de maintenir des très bons niveaux, mais il faut évoquer que dans toutes les structures où il y a eu des rénovations, les fréquentations ont bondi. Ça va être le cas cette année avec la Chazelle, où on pense qu'il y aura au total 40 000 personnes qui auront fréquenté le musée. Et faut-il que je vous rappelle, lorsqu'il y a eu l'exposition Manu France, entre mai 2011 et avril 2012, 60 000 visiteurs, etc. Une petite structure comme Saint-Jean-Bonnefonds, parce qu'ils ont provoqué 5 manifestations successives, tout d'un coup, ont vu une fréquentation qui a été multiplié par 4 et par 5. C'est tout à fait logique. Et je voudrais quand même dire aussi qu'il y a des structures qui n'ont pas de lieu d'accueil. C'est le cas de l'association ripagérienne de recherche historique. Et c'est quand il y a les journées européennes du patrimoine, quand la circonstance, ils peuvent compter les gens qui les soutiennent et qui les encouragent. Et là, chaque année, ils ont une centaine de personnes. Même chose pour Ville d'Arrêt d'Histoire. Il n'y a pas de lieu. Vous ne pourrez pas rencontrer Sandrine dans un lieu estampillé. Enfin, presque, quoi, quand même. Mais en revanche, il y a 25 000 personnes dans les rues de Saint-Étienne qui suivent les conférenciers. C'est incroyable, ça. Allez. Cinquième élément, des contraintes financières extraordinairement lourdes. Je ne vais pas trop développer, mais il y a des disparités formidables. Il y a des associations qui n'ont aucune subvention. Il y en a une, vous le saurez. Et puis, il y en a d'autres qui reçoivent 500 euros de la mairie. Bon, on achète les crayons. Il y en a d'autres qui reçoivent des sommes beaucoup plus fortes, mais parfois les cotisations sont plus importantes que les subventions elles-mêmes. C'est le cas par exemple des amis de Couriot. Les adhésions, c'est 6 500 de cotisations et la subvention, c'est 4 500. Et puis il y a des grosses associations enfin, qui reçoivent des sommes extrêmement importantes, 40 000 euros, parfois plus, parce qu'il y a des projets qui sont très conséquents. Et puis, il y a la nécessité de se décrocher de ces subventions en faisant appel aux collectivités, aux autres collectivités publiques. Alors, j'aimerais vous renvoyer, mais je ne vais pas avoir le temps de le faire, vers l'extraordinaire montage financier qu'a réalisé le musée de Chazelles-sur-Lyon autour d'un cofinancement d'un projet de territoire. Et là, on voit arriver un extraordinaire panel de collectivités qui interviennent, jusqu'à l'État, jusqu'à l'Europe, jusqu'à la fondation totale. Donc là, c'est un cas d'école. Sixième caractère, une exceptionnelle richesse des collections. là, je vous fais conscience, vous êtes des rats de musée, de structure muséographique, vous connaissez tout, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, si ce n'est qu'il y a les sites eux-mêmes qui sont importants. Et vous vous souvenez du travail de Philippe Père, 100 sites, il y en a en fait beaucoup plus de 100. Eh bien, notre espace muséographique, il s'échappe aussi des espaces et des structures que vous représentez. Et puis, il faut aussi que je vous dise que le plus beau n'est peut-être pas dans les vitrines, mais aussi dans les réserves. Et comme nous avons eu la chance de vous rencontrer, que vous nous avez reçus dans les réserves, c'est le plus beau des moments que vous nous avez permis de passer. Et je vais vous faire la confidence d'un ancien président d'une structure qui nous disait, moi, mon plus grand bonheur, quand j'ai du temps, c'est de venir ici, je prends ma journée, je prends ma demi-journée, et puis je regarde, et puis je lis, et puis je me passionne. C'est ça, la passion qui nous occupe tous. Septième élément, Christelle, combien ? C'est terminé ? J'en ai que... Non, mais je vais être encore plus rapide. C'est l'intention d'aller au-delà des objectifs purement muséaux. C'est fondamental. De trois manières. En instaurant ou restaurant des fêtes ou manifestations populaires. Je prends des exemples, la Sainte-Barbe sur Courriot, la fête de la Forge à Saint-Martin-la-Plaine. C'est deuxième solution, en intégrant la structure dans des pratiques culturelles diversifiées. On n'hésite pas à faire venir la musique, la peinture, le théâtre, la danse, les conférences, etc. Troisième axe, en proposant d'être une vitrine de valorisation des activités industrielles innovantes pour prendre le relais du passé. Alors il se passe des choses fort importantes. Musée du Chapeau, avec le club Chapeau Passion, avec la maison des tresses et lacets, qui a la visée de faire reconnaître le savoir des tresses et lacets à travers le travail des artistes contemporains, qu'ils soient des stylistes, des designers, etc. Dernière chose, mais celle-là, Christelle, tu me donnes 2 minutes. C'est les questions vives pour l'avenir de toutes ces structures. Et il y a 4 questions très très fortes. Première question, le vieillissement des membres. Je ne développe pas, c'est au cœur de nos têtes. Les gens sont fatigués et ils voudraient voir arriver des jeunes. Deuxième question vive, l'existence d'une muséographie à 2 vitesses. Parce que toujours agrandir les espaces, améliorer la scénographie, intégrer les nouvelles technologies, ça coûte cher. Et ça risque de condamner à court terme certains musées qui ne risquent de n'être qu'à tout jamais que des musées de proximité à faible rayonnement. Troisième question, la bonne gestion des archives. Pour quelques structures se pose le manque d'espace pour stocker. On nous disait, on entrepose à la cave. Ou bien on nous dit, on ne peut pas accueillir les chercheurs. Tous ne s'entourent pas des précautions légales entourant les dépôts d'archives. Il y a le CEDMO, il y a le musée du Chapeau qui font signer des conventions type de dépôt. Il y a le problème aussi de la conservation tout simplement des documents qui ne se réalisent pas dans des conditions optimales. Seules 2 associations, selon nos informations, on peut se tromper, qui sont mises aux normes scientifiques de conservation, il y a les Bruneau et Chazelle-sur-Lyon depuis 2013. Dernière question vive, l'indexation de l'inventaire. Ce n'est pas une préoccupation pour beaucoup de structures, ils ont bientôt de soucis. On a entendu, nous n'avons pas l'intention d'en réaliser un, ou bien encore, l'inventaire c'est dans ma tête et ça suffit bien. Pourtant, la procédure d'inventaire semble un préalable et ça a été bien compris dans 4 structures, je crois. Musée du Chapeau, Maison du patrimoine et de la mesure à la Talaudière, les Bruneau et le CEDMO. Et à signaler que le CEDMO s'apprête à mettre en ligne l'inventaire de sa bibliothèque.
Voilà, c'était donc la fin de l'intervention de Maurice Bedouin, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure en conclusion. Nous allons d'abord entendre une autre chanson italienne, une chanson des migrants qui évoque la misère qui règne dans la plaine du Pô et l'obligation pour ces travailleurs italiens de quitter leur pays. C'est addio a Lugano.
Senza colpa gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cuore e partono cantando con la speranza in cuore ed è per voi sfruttati per noi lavoratori che siamo in Repubblica borghese, onde ne avrai vergogna, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir, noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Cacciati senza tregua, andrem di terra in terra, a predicare la pace e a bandir la guerra, la pace fra gli oppressi, la guerra agli oppressori, la pace fra gli oppressi, la guerra agli oppressori.
Elvezia al tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo le tradizioni offende, esulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, esulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell.
Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati al nord, i cavalieri erranti son trascinati.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Dio et plus précisément de l'émission du Grémos, comme tous les deuxièmes jeudis du mois. Le Grémos, c'est le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois qui revient aujourd'hui sur la recherche du 28 novembre 2014 sur les associations et mémoires ouvrières dans le bassin stéphanois.
Voilà, et cette chanson, Addio a Lugano, c'est un petit clin d'œil pour toi, Flavien, puisque tu veux absolument revenir en 1914 et que cette chanson évoque un peu l'état d'esprit des socialistes qui préféraient faire la guerre aux bourgeois plutôt que la guerre nationale. Et donc, après avoir entendu Maurice Bedouin, nous allons écouter, car tout bon travail d'historien doit reposer aussi sur un travail de comparaison, l'intervention de Morane Chavanon, doctorante à l'Université de Lyon, qui travaille sur la comparaison justement des situations, des associations de Saint-Étienne et de Villeurbanne.
Je suis un petit peu malade, donc je m'excuse par avance pour la voix. Tout d'abord, je voudrais remercier donc le Grémos de m'avoir permis de participer aujourd'hui. Je voudrais aussi préciser que j'interviens sur la base d'une recherche en cours, donc à savoir la préparation d'une thèse de doctorat en sciences politiques, qui porte plus particulièrement sur les mobilisations autour des mémoires immigrées à Villeurbanne et à Saint-Étienne. Mais évidemment, ces deux ville marquée par l'histoire industrielle, donc les questions de mémoire ouvrière et immigrée sont intrinsèquement liées, évidemment. Alors je vais plutôt axer, et ça va faire écho à beaucoup de choses que Maurice a exposées, sur le traitement politique en fait, du passé industriel dans les deux villes. Puisque si on a une histoire qui a des fortes similarités entre Villeurbanne et Saint-Étienne, le traitement politique ne va pas du tout être le même. Alors, moi, j'ai mené un travail de recherche adoptant une démarche plutôt sociologique, donc je ne suis pas historienne, bien que, évidemment, j'ai lu des ouvrages historiques et que c'est une dimension très importante, mais bon, voilà, je ne suis pas historienne. Donc, j'ai réalisé des entretiens avec des acteurs impliqués sur les questions de mémoire-patrimoine, des observations de mobilisation, donc des expositions, des préparations de projets, etc. Et un des premiers enseignements de terrain, en posant la question du comment se fabrique la mémoire industrielle, c'est que le contexte politique et institutionnel joue un rôle. Et il va être différent à Saint-Étienne et Villeurbanne, c'est ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, je vais commencer par présenter le contexte Villeurbanne, peut-être pour mettre en perspective du coup le contexte stéphanois et ce qu'on vient d'évoquer. Donc, il faut savoir qu'à Villeurbanne, il y a une politique mémorielle qui est très très forte de la part de la municipalité. C'est un enjeu vraiment politique pour la ville. Alors ça va naître dans les années 2000 et plus particulièrement au moment des élections municipales de 2001. Donc Jean-Paul Brett, qui est le maire actuel et qui était à l'époque candidat socialiste, dans son projet politique, il va évoquer et chercher à mettre en avant une mémoire collective qui participerait d'une exception villeurbanaise. En fait, ça va entrer dans un jeu aussi politique de marquage territorial, de fabrication d'une image de la ville, dans le cadre d'un rapprochement avec la ville de Lyon, qui est de plus en plus important. Donc on peut penser, dans l'histoire villeurbano-lyonnaise, on va dire, il y a eu plusieurs tentatives d'annexion de Villeurbanne par Lyon, mais plus récemment, en 1966, Villeurbanne a été rattachée à Lyon dans le cadre de la communauté urbaine de Lyon, dans le cadre du Grand Lyon, et puis la métropole en cours de construction. Donc l'enjeu mémoriel, finalement, va être très présent dans le discours de la ville à partir de ce moment-là. Et ça va se matérialiser par l'appel à, je cite, « un centre de recherche et de réflexion sur cette mémoire ouvrière, multiethnique et fraternelle des villes du XXe siècle ». Et donc, en 2001, lorsqu'il est élu, une délégation à la mémoire et au patrimoine va être créée et la signature d'une convention avec le CNRS va être mise en place pour entamer la préfiguration d'un centre mémoriel municipal qui s'appelle le RIS, pour ceux qui connaissent, et qui va ouvrir ses portes en 2008. Alors le RIS, c'est une institution très spécifique au sens où ce n'est pas un musée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collection, mais il y a des archives qui sont en partie des archives personnelles d'habitants et ainsi que des témoignages, des mémoires orales qui sont collectées encore aujourd'hui sur la ville de Villeurbanne. Le RIS comporte également une médiathèque et donc il met en avant trois volets, Villeurbanne, culture ouvrière et immigration. Donc c'est une différence entre Villeurbanne et Saint-Étienne, c'est donc à Villeurbanne, il n'y a pas de musée. Ce qui va caractériser le RIS, donc, c'est aussi un appel constant à la participation des habitants. C'est ça qui va faire sa spécificité. Parce que deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de société d'histoire à Villeurbanne et pas d'association qui travaille spécifiquement sur les questions patrimoniales. Il y en a une qui s'appelle Dentelle Vivante, mais qui est très très liée à la démocratie participative de la ville. Les associations qui travaillent sur le patrimoine industriel, elles sont davantage basées à Vaux-en-Velin, qui est la commune juste à côté, mais le recueil de la mémoire ouvrière, ce n'est pas tellement leur cheval de bataille. Elles, leur lutte, ça va plutôt d'infléchir les projets urbains et d'arriver à sauvegarder des éléments industriels en fait, dans des projets menés généralement par le Grand Lyon. Donc, l'exemple le plus caractéristique, ça va être le carré de soie. Donc il y a une usine, l'usine TAS, qui était une usine textile, qui était menacée de démolition, et plusieurs associations se sont réunies pour sauvegarder les bâtiments, dont une aile a été classée, enfin inscrite au titre des monuments historiques. Donc à Villeurbanne, ce qui est important à retenir, c'est que les mobilisations autour de la mémoire ouvrière, elles ne se font pas dans un cadre associatif, mais elles vont se faire dans le cadre de la démocratie locale, et donc dans un cadre attaché à la municipalité. Et donc pour ça, je vais illustrer avec un collectif d'habitants que j'ai beaucoup suivi durant mon enquête, auprès desquels j'ai mené une grande partie de mon enquête, qui s'appelle l'Interquartier Mémoire et Patrimoine. Donc je vais m'expliquer sur ce que c'est. Donc en 2007, juste avant le second mandat du maire et l'ouverture du RIS, on a deux habitants qui sont des passionnés d'histoire locale, qui sont très investis dans la vie locale, donc à la tête d'un comité de quartier ou faisant partie de divers conseils de quartier, qui vont en fait se saisir de cette ouverture, de cet appel à la participation, qui vont solliciter la déléguée à la mémoire et au patrimoine et la future conseillère déléguée à la mémoire de l'époque pour créer une structure d'habitants participative qui va s'appeler interquartier, donc c'est-à-dire que c'est censé transcender les conseils de quartier et qui vont être donc qui vont contribuer à importer cette thématique de la mémoire du patrimoine dans la démocratie locale, dans la démocratie participative. Et donc ils vont naître, on va dire, en 2007-2008, et leur rôle, c'est d'appuyer, de soutenir les propositions qui émaneraient d'habitants et qui tendraient à valoriser la mémoire et le patrimoine villeurbanais. Donc, ils sont 90 inscrits, mais on va dire qu'il y a un noyau dur de 15-20 personnes. Voilà leur but, donc ils le réaffirment régulièrement, c'est on ne fait pas de la mémoire pour la mémoire. La mémoire est avant tout destinée au débat, à se poser des questions pour l'aujourd'hui en tant que citoyen. Donc ils mobilisent un registre entre la citoyenneté, la démocratie locale et les enjeux patrimoniaux, qui sont très importants à Villeurbanne. Donc je vais peut-être illustrer un de leurs combats qui a été assez déterminant dans leur activité. En plus, j'ai eu la chance d'y assister durant ma thèse. Donc en fait, en 2013-2014, ils ont réalisé un projet sur la question de l'immigration à Villeurbanne. Et en fait, ça s'est passé de manière assez intéressante, puisqu'il y a eu une sorte de micro-combat avec la mairie à l'intérieur pourtant d'un consensus apparent sur l'enjeu de faire mémoire de l'immigration et du monde ouvrier à Villeurbanne. Donc en 2012, l'interquartier propose à la ville un documentaire sur un bidonville algérien qui était donc à Villeurbanne et dont il ne reste actuellement plus de traces dans l'espace public. Contrairement à l'intérêt affiché par la mairie pour la mémoire immigrée, celle-ci n'accepte pas immédiatement et au fil de l'enquête, on découvre qu'en fait le bidonville était privé, que le dernier habitant était exproprié par la ville pour pouvoir construire un grand parc qui est le parc de la Fessine. Ce qui fait que la mairie a été au départ réticente pour la mise en œuvre de ce projet. Mais les habitants, de par leur implication dans la démocratie locale et leur apprentissage finalement du discours tenu par la ville sur le patrimoine, ils ont réussi à monter un dossier, un cahier des charges, à élaborer une méthode presque scientifique pour retrouver les anciens habitants du bidonville, pour les interroger, etc. Ce qui fait que le projet était tellement abouti que la mairie a fini par le financer. Et quelques mois plus tard, au vu de son succès, il a été projeté dans plusieurs structures. Il a même été projeté pendant la campagne du maire à sa réélection. On peut éventuellement parler de récupération, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est à l'intérieur d'un récit mémoriel officiel qui peut paraître très cadré par la mairie que les habitants vont réussir à faire entendre leur point de vue et à se mobiliser. Alors voilà pour le contexte villeurbanais. Et pour mettre en perspective avec le contexte stéphanois, alors ce que j'ai perçu, c'est que travailler sur la mémoire à Saint-Étienne, finalement, c'est déjà une forme de subversion par rapport au discours politique dominant. Alors, je vais m'expliquer avec des éléments de contexte et des archives. Donc, en 2009, la Cité du design est inaugurée sur le site de l'ancienne manufacture d'armes, qui est donc emblématique de l'histoire industrielle stéphanoise. Parmi d'autres emblèmes, je ne rentre pas là-dedans. Et donc, j'ai étudié le discours d'inauguration du lieu, qui a été prononcé par Jean-Jacques Rey, à l'époque conseiller général, qui représentait Bernard Bonne, président du Conseil général de la Loire. Donc je me permets de citer un petit extrait. Un jour qui restera dans l'histoire de notre ville comme celui qui a vu se tourner définitivement la page de la ville noire du 19e siècle pour ouvrir celle de ville du 21e siècle. Ce défi, Michel Thiolière a voulu que Saint-Étienne le relève. Il fallait un projet qui tourne la page de la ville industrielle du 19e siècle pour entrer dans une ère nouvelle, celle de la reconstruction, de l'innovation, du design. Donc on voit qu'on a un projet politique de réhabilitation de la ville par le design. Donc c'est un projet qui est porté durant la mandature de M. Michel Thiolière, donc avec la mise en place de la Cité du design en 1998 et la création de la Cité du design qui est envisagée dès 2001. Donc pour avoir fait une étude archivistique sur les débats au Conseil municipal, il y a notamment une archive, l'archive d'une séance qui est datée du mois de janvier 2001 et où le projet de Cité du design apparaît dans la politique municipale dans le cadre de vie d'une ville moderne du 21e siècle, où le maire précise « Nous avons 1,3 million de francs pour le démarrage du Centre international de design. » Donc on voit que c'est un projet assez important. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que l'opposition, finalement, elle n'est pas tellement gauche-droite, c'est plus complexe que ça. Et donc l'inauguration de l'établissement, elle se fait au moment de l'accès à la municipalité de Maurice Vincent, donc maire socialiste, en 2008. Et quand on étudie son plan de mandat, on voit que finalement le projet politique, il va être amené à reprendre beaucoup d'éléments de la stratégie urbaine développée sous la précédente mandature, qui fait du design son fer de lance. Donc par exemple, dans le plan de mandat, on trouve l'image extérieure de notre ville reste encore trop marquée par la référence aux crises qu'elle a dû affronter. L'accent mis ces dernières années sur l'architecture et le design participe à une volonté louable d'amélioration de la ville, mais etc. D'autres contraintes sont énumérées. Mais le terme mémoire va commencer à faire son apparition de manière assez périphérique au départ, donc au titre de la vitalité culturelle locale, par exemple. Donc je cite, des efforts seront entrepris pour encourager les actions qualitatives de recueil de mémoire ou au titre de levier du vivre ensemble, surtout concernant la question des personnes âgées. Donc on voit que ce n'est pas un enjeu vraiment porté par la municipalité. Progressivement, une fois que Maurice Vincent est élu, la notion de mémoire va être mobilisée, mais généralement sous l'angle de l'histoire des innovations industrielles. Donc elle va servir d'appui, voire même de béquille en quelque sorte, à la stratégie de requalification de la ville qui reste essentiellement tournée vers le design et l'innovation. C'est comme si la mémoire allait servir à rajouter une dimension sociale finalement au discours sur le design. Donc, par exemple, j'ai étudié le dossier de candidature qui a permis à Saint-Étienne d'avoir le label Ville créative de design pour l'UNESCO en 2010. Et donc on voit que les deux notions sont vraiment intrinsèquement liées. Il y a écrit l'innovation technologique au service de l'industrie ou de la vie quotidienne représente un continuum dans l'histoire et l'identité de Saint-Étienne. Donc c'est un peu comme si de la mine au design, il y avait un pas qu'on pouvait franchir aisément. Donc on voit que dans ce contexte-là, finalement, les mobilisations pour la mémoire des mondes ouvriers stéphanois, elles s'inscrivent dans une forme de subversion par rapport à une politique dont l'enjeu, finalement, c'est la fabrication d'une image urbaine qui s'appuie très fortement sur la mise en scène d'une projection en fait, collective dans l'avenir. Alors, en faisant mon étude sur le terrain, j'ai vu que, malgré tout, il y avait de nombreuses mobilisations autour de la mémoire ouvrière et immigrée à Saint-Étienne, alors essentiellement ouvrière et assez peu immigrée, notamment incarnée par de multiples associations qui sont plurielles, qui sont assez autonomes et qui ne se coordonnent pas nécessairement entre elles. Je ne vais pas en dresser une liste exhaustive, mais je vais essayer de dégager trois formes de mobilisation autour des facettes plurielles de la mémoire industrielle à Saint-Étienne. Alors d'une part, on a évidemment les associations patrimoniales, qui sont explicitement dédiés au patrimoine industriel à la mémoire ouvrière. Donc il y a beaucoup de représentants dans la salle. Et donc je ne vais pas revenir sur la liste exhaustive et je ne vais pas non plus m'attarder sur les structures de type muséal. Mais il y en a deux autres qui pourraient participer peut-être à une réflexion sur qu'est-ce que les frontières finalement de l'identité ouvrière. Donc ça va être les actions qui sont menées en lien avec des services municipaux comme Ville d'Art Histoire ou les archives et qui sont réalisées dans différents quartiers de la ville, par exemple à Montrénault ou dans le quartier du Soleil avec le groupe Mémoire Habitant, et finalement qui va cartographier un petit peu la mémoire des mondes populaires dans la ville. Et enfin, il y a quelques initiatives qui commencent à poindre et qui portent spécifiquement sur les mémoires de l'immigration locale. Donc, il y a le travail d'associations comme le Cinéma Le France et il y a eu récemment l'exposition sur les mineurs maghrébins au musée de la mine, donc menée en partie par Catherine Gauthier avec d'autres. Donc en bref, on voit qu'à Saint-Étienne, il existe une multitude de mobilisations autour des différentes facettes de la mémoire industrielle stéphanoise qui sont relativement autonomes les unes par rapport aux autres, ce qui constitue à la fois une énorme richesse et pose à la fois la question de peut-être leur alliance pour être plus visible ou plus pérenne sur le territoire. Donc c'est une piste de travail que j'aimerais proposer, c'est-à-dire se demander finalement si les lieux de la mémoire ouvrière, ils ne resteraient pas encore à inventer, de sorte à en faire un véritable enjeu collectif, partagé et citoyen, qui pourrait restituer finalement la complexité des mondes populaires qui sont en mutation entre l'habitant d'un quartier populaire et la figure de l'ouvrier en lutte, qui permettrait de faire advenir ces questions dans l'espace public où elles ont au final assez peu la parole. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai respecté.
Voilà, très riche intervention de Morane Chavanon sur cette comparaison si intéressante entre Saint-Étienne et Villeurbanne. J'en retiendrai pour l'instant deux idées qui sont riches de développement. La question de la mémoire ouvrière qui serait institutionnalisée à Villeurbanne et qui serait subversive à Saint-Étienne. Je crois qu'il y a de quoi beaucoup se réfléchir là-dessus. Je voudrais d'abord revenir sur les grands points d'intervention de Maurice Bedouin. Donc une intervention qui, je rappelle, reposait sur l'enquête que nous avions faite il y a juste un an, en avril-mai 2014. Et il a dressé donc ce panorama des associations en tirant un certain nombre de bilans. D'abord, l'importance du maillage très serré, avec notamment de Firminy à Rive-de-Gier, des associations présentes dans toutes les communes, plus ou moins liées au patrimoine technique, mais plus ou moins liées aussi à la mémoire ouvrière. Et il pose cette question de savoir s'il faut ou non intégrer le massif du Pilat dans l'ensemble du bassin stéphanois. C'est-à-dire qu'on a déjà, à travers cette perspective, la question de l'identité dans le travail des mémoires. Est-ce que la mémoire industrielle, est-ce que la mémoire ouvrière peut permettre de définir une des identités du bassin stéphanois? Il a aussi insisté sur les points forts, la spécialisation justement vers les productions industrielles, la surreprésentation de la mine, le développement qu'il appelle lui-même en grappe, c'est-à-dire à travers différentes branches industrielles, sur la passementerie, sur la mine, sur la métallurgie, et puis le rôle des lieux patrimoniaux industriels. Donc, il a cité le cas de la chapellerie de Chazelles, il a cité le cas de l'usine des tresses et lacets de la terrasse sur Dorlaix. Il a aussi insisté sur les sociabilités. Alors, il parle du mode de vie, de la perception des hiérarchies. En ce qui concerne les conflits, on pourrait sans doute discuter. Est-ce que les conflits sont tant que ça représentés dans les associations muséales? Sans doute au musée de la mine de la Ricamarie, beaucoup moins au musée de la mine de Courriot. Il a développé aussi les options muséographiques en montrant l'immense travail fait par toutes ces associations. Et je crois que c'est effectivement quelque chose qu'il faut saluer, avec les hésitations entre musée technique, musée industriel, écomusée. Il a montré aussi que toutes ces associations savaient s'entourer de conseils d'experts, notamment autour des groupes d'amis du musée. Il a enfin insisté sur le fait que ces associations sont souvent extrêmement récentes, c'est-à-dire qu'elles répondent en gros à l'effondrement du tissu industriel stéphanois dans les années 70-80, comme s'il y avait besoin de sauvegarder, je cite ce qu'il dit, une entité collective. Et puis, pour terminer, il a montré que ces associations ont quand même un certain nombre de... certes, elles ont du succès, mais elles ont aussi un certain nombre de problèmes, notamment le problème des contraintes financières et puis celui de la conservation de leur collection et en particulier de la conservation de leurs archives. Il faut donc, et c'est un petit peu une des conclusions que nous avons tirées de cette journée, il faut donc d'abord coopérer entre toutes les associations pour travailler à la construction de cette identité mémorielle du bassin stéphanois, travailler à mutualiser nos forces parce qu'elles sont souvent, elles sont nombreuses, mais elles sont souvent réduites. Et pour cela, nous avons, avec les archives municipales et avec les archives départementales, proposé aux associations ce 27 avril, lundi 27 avril, un premier exemple de travail en commun autour d'une journée sur la question de la conservation et de l'utilisation des archives par les différentes associations. Et c'est une journée qui aura lieu aux archives départementales. Et nous tenons à remercier ici à la fois sa directrice Solange Bidou et le directeur des archives municipales. Alors je terminerai en citant ce qu'a dit Morane Chavanon. Travailler sur la mémoire, c'est déjà une forme de subversion, en tout cas à Saint-Étienne. Or l'actualité est là pour nous le rappeler, puisque certains, bien qu'élus, municipaux sont assez stupides pour insulter la mémoire ouvrière, notamment à travers son bâtiment emblématique, à savoir la Bourse du Travail. Et pour en savoir plus, je vous renvoie à la lecture des tribunes libres, je mettrai l'adjectif libre entre guillemets, de votre dernier magazine municipal Saint-Émag.
Merci Jean-Michel.
Merci.
Prochain rendez-vous avec le Grémo, ce sera en mai, le deuxième jeudi du mois, en l'occurrence le jeudi 14 mai.